Germaine de Staël, Delphine, partie 3, lettres 7 à 11 comprises. Lettre 7. Léonce à Delphine. Oui, je vous obéirai. Vous avez raison de n'en pas douter. Je cède à la vérité quand c'est vous qui me l'annoncez. N'aurais-je donc pas le pouvoir de vous persuader à mon tour? Il est impossible que vous eussiez la force de vous montrer cruel envers moi. Si j'avais su vous convaincre que la plus parfaite vertu vous permettait, vous ordonnait même peut-être de condescendre à ma prière. Je ne sais si, dans le délire de la fièvre, j'ai conçu l'espérance que vous seriez l'épouse de mon choix, que vous tiendriez les serments que vous auriez prononcés si, dans ce jour affreux, j'avais saisi votre main, que vous tendiez vers moi, et que je l'eusse présentée à la bénédiction du ciel. Mais j'en prends à témoin l'amour et l'honneur, je ne vous demande qu'un lien pur comme votre âme, un lien sans lequel je ne puis exercer aucune vertu, ni faire le bonheur de personne. Vous m'ordonnez de rester auprès de Mathilde. J'obéirai. Mais le spectacle de mon désespoir ne l'éclairera-t-il pas tôt ou tard sur mes sentiments? Si vous m'ôtez l'émulation de vous plaire, si des entretiens fréquents avec vous ne raniment pas mon esprit découragé, ne me rendent pas le libre usage des qualités et des talents que je possédais peut-être, mais que je perds sans vous, que ferais-je dans la vie? Comment serais-je distingué dans aucun genre? Comment avancerais-je vers un but glorieux, quel qu'il soit? Aucun intérêt, aucun mouvement spontané ne me dira ce qu'il faut faire. Et, loin d'éprouver de l'ambition, je m'acquitterai des devoirs de la vie comme une ombre qui se promènerait au milieu des êtres vivants. Puis je cultivai mon esprit quand il n'est plus capable d'une attention suivie, lorsqu'il ne saisit une idée que par un effort, quand je ne puis rien concevoir, rien faire, sans une lutte pénible contre la pensée qui me domine. Quelle est la carrière que l'on peut suivre? Quelle est la réputation qu'on peut atteindre par des efforts continuels? Quand la nature n'inspire plus rien que la douleur, se fait-il jamais rien de bon et de grand? Un revers éclatant peut donner de nouvelles forces à une âme fière, mais un chagrin continuel est le poison de toutes les vertus, de tous les talents, et les ressorts de l'âme s'affaissent entièrement par l'habitude de la souffrance. Vous croyez que je serai plus capable de remplir mes devoirs domestiques si vous m'arrachez les jouissances que je voudrais trouver dans votre amitié? Eh bien, ce sont des devoirs constants et doux qui exigent une sorte de calme qu'un peu de bonheur pourrait seul me donner. Oui, Delphine, je vous le devrai, ce calme. Votre figure enchanteresse enflamme et trouble souvent mon cœur. Mais votre esprit, mais votre âme, me font goûter des délices purs et tranquilles. Quand, chez Madame de Vernon, je vous entendais parler sur la vertu, sur la raison, analyser les idées les plus profondes, démêler les rapports les plus délicats, je m'éclairais en vous écoutant. Je comprenais mieux le but de l'existence. Je pressentais avec plaisir l'utile direction que je pourrais donner à mes pensées. L'amour, quand c'est vous qui l'inspirez, ennoblit l'âme, développe l'esprit, perfectionne le caractère. Vous exercez votre pouvoir comme une influence bienfaisante, non comme un feu destructeur. Depuis que je ne vous vois plus, je me sens dégradée. Je ne fais plus rien de moi-même. Je compare en frémissant la douleur qui m'attend à celle que j'ai déjà sentie. J'essaie de recourir à des distractions impuissantes et je me dis souvent qu'il vaudrait mieux se donner la mort qu'être occupé sans cesse à fuir la vie. Delphine, ce ne sont pas là les peines ordinaires d'un amour malheureux, celles dont le temps ou l'absence ou la raison peuvent triompher. C'est un besoin de l'âme, toujours plus impérieux, plus on veut le combattre. Votre visage ne ferait pas l'enchantement de mes regards. La jeunesse ne procurerait pas tous ces charmes à votre taille ravissante. Que j'éprouverais encore pour vous le sentiment le plus tendre. Vos idées, vos paroles auraient sur moi tant d'empire qu'après vous avoir vus ensemble, jamais je ne pourrais aimer une autre femme. Ah, mon ami, ne le sens-tu pas comme moi? L'univers et les siècles se fatiguent à parler d'amour. Mais une fois, dans je ne sais combien de milliers de chances, deux êtres se répondent par toutes les facultés de leur esprit et de leur âme. Ils ne seront heureux qu'ensemble, animés que lorsqu'ils parlent. La nature n'a rien voulu donner à chacun des deux qu'à demi, et la pensée de l'un ne se termine que par la pensée de l'autre. S'il en est ainsi de vous, ma Delphine, quels efforts insensés veux-tu donc essayer? Tu me reviendras dans quelques années. Si je vis, si nous vivons, tu me reviendras, ne pouvant plus lutter contre la destinée du cœur. Mais alors, il ne nous restera que des âmes abattues par une trop longue infortune. Nous n'aurons plus la force de nous relever et de soutenir, sans en être accablés, cette masse de douleur que la nature fait peser sur la fin de la vie. Delphine, Delphine, crois-moi quand je te jure de respecter tous les devoirs, toutes les vertus que tu me commandes. Après un tel serment, tu n'as pas le droit de me refuser. Tu parles de ta faiblesse, tu prétends la craindre. Ah, cruel, combien tu te trompes. Mais enfin tu dirais vrai que moi, l'amant qui t'adore, je te préserverai si ton cœur se confie au mien. Je respecterai ta vertu, ta céleste délicatesse, tout ce qui fait de toi l'ange des anges. Je veux que ton image reste en tout semblable à celle qui remplit maintenant mon cœur, et la plus légère altération dans tes qualités me causerait une douleur que toutes les jouissances de l'amour ne pourraient racheter. Vous protégez Mathilde, je m'occuperai activement de son bonheur. Vous connaissez son caractère, son genre de vie, la nature de son esprit. Vous savez combien il est aisé de lui cacher ce qui se passe dans le monde et même autour d'elle. Je la rendrai plus heureuse par les soins que je croirai lui devoir en compensation du bonheur que je goûterai sans elle. Je la rendrai plus heureuse en réparant ainsi les torts qu'elle ignorera, que si, l'âme déchirée, je traînais quelque temps encore loin de vous une vie de désespoir. Delphine, tout est prévu. J'ai répondu à tout. Il ne reste plus de défense à votre cœur. Mon innocente prière ne peut plus être refusée. Me condamneriez-vous à repousser un soupçon que vous me faites entrevoir? Vous avez le droit de m'accabler de mes défauts après le malheur dans lequel ils m'ont précipité. Cependant, deviez-vous me dire que je vous aimerais moins si votre réputation était altérée, si elle l'était par votre condescendance même pour mon bonheur? Mon ami, rejette loin de toi ces craintes indignes de tous deux. Laisse-moi passer chaque jour une heure auprès de toi. Le charme de cette heure se répandra sur le reste de ma vie. Je l'attendrai, je m'en souviendrai. Mon sang circulant dans mes veines ne m'y causera plus une douleur brûlante. Je pourrai penser, agir, faire du bien aux autres, remplir les devoirs de ma vie et mourir regretté de toi. Je vais porter cette lettre à votre porte, l'espérance me ranime. Si tu as dit vrai, Delphine, si nos cœurs se devinent encore, cette espérance est le présage assuré de ta réponse. À 11 heures du soir, j'arrive chez vous et j'apprends que vous êtes parti. Parti. Et l'on ne veut pas me dire par quelle route. Qu'espèrent-ils ceux qui s'obstinent à garder ce barbare silence? Pensent-ils que sur la terre, je ne saurai pas où vous trouver? Si cette lettre vous arrive avant moi, préparez votre cœur. Votre cœur, quelque dur qu'il soit, à beaucoup souffrir. Car vous serez inflexible, je dois le croire à présent. Et néanmoins, il est des événements funestes que vous ne verrez pas sans frémir. Adieu. Je ne m'arrête plus que je n'ai rencontré la mort ou vous. Lettre 8. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Paris, ce 14 décembre 1790. Je reste, ma chère Louise. Ce mot est peut-être bien coupable. Mais si vous le pardonnez, tout ce que j'ai à vous dire ne servira qu'à me justifier. Vous savez dans quel état j'étais quand je me défendais de le voir. Je prenais ma douleur pour le trouble le plus coupable et le plus dangereux. Maintenant que je suis résolue à ne plus le quitter, je suis calme, je ne crains plus. Ce qu'il me fallait, c'était le voir et lui parler. Je ne forme pas un souhait à présent que ce bonheur m'est assuré. Je suis certaine de passer ainsi toutes les années de ma jeunesse, sans avoir même à combattre un seul mouvement condamnable. Je serai son amie. Tous les sentiments de mon cœur lui seront consacrés. Mais cette union ne nous inspirera jamais que les plus nobles vertus. Louise, je luttais contre la nature et la morale en me séparant de lui. Je voulais triompher de l'horreur que m'inspirait l'idée de le faire souffrir. Je devais donc être agité sans cesse par une incertitude déchirante. Ne sachant si j'étais vertueuse ou criminelle, barbare ou généreuse, tout était confondu dans mon esprit. Je crois comprendre à présent ce qu'il faut accorder à mes devoirs et je les concilierai. Peut-être ne pourrais-je conserver ce qu'on appelle dans le monde une existence et de la réputation. Mais songez-vous pour quel prix je les expose. C'est pour le voir, et le voir sans remords. Que les ennemis inventent à leur gré des calomnies, des persécutions, des peines, ils n'en trouveront point que je ne méprise au sein d'un tel bonheur. L'amour tel que je le sens ne me laisse craindre que le crime ou la mort. Le reste des maux de la vie ne s'offre à moi que comme ces brouillards lointains et passagers qui fixent à peine un instant nos regards. Il faut vous raconter, ma sœur, la scène terrible et douce qui a décidé de mon sort. Madame d'Artenat, témoin malgré moi de mon refus de voir mon amie et de la douleur que j'en éprouvais, s'était rendue maîtresse de mon secret et m'avait emmenée chez elle à l'insu de Léonce pour me dérober à ses recherches. J'étais convaincue par ses lettres que je ne pourrais jamais obtenir la promesse de ne pas me suivre. Craignant que, d'un instant à l'autre, il ne découvrît ma retraite, je me décidai à partir en faisant un détour pour regagner la route du Midi. Le soir même où je vous le mandais, ma résolution fut prise et exécutée. J'étais soutenue, je crois, dans ce grand effort, par la fièvre que la solitude et la douleur m'avaient donnée. Une exaltation forcée m'animait, et j'étais si pressée d'accomplir mon cruel sacrifice que je montai dans ma voiture un quart d'heure après m'être déterminée à m'en aller. je laissai Antoine à Paris pour arranger mes affaires, et n'ayant avec moi que ma femme de chambre, je partis dans un état qui ressemblait bien plus à l'égarement du délire qu'au triomphe de la raison. La nuit était noire et le froid assez vif. Je jetai mon mouchoir sur ma tête et, m'enfonçant dans ma voiture, son mouvement m'emporta pendant 3 heures sans me faire changer d'attitude. Étourdi par cette course rapide, je ne suivais aucune idée, je les repoussais toutes successivement. Néanmoins, c'était en vain que je cherchais à confondre dans mon trouble les souvenirs et les regrets qui se présentaient à moi. Je parvenais à obscurcir ce qui se passait dans mon esprit, mais rien ne calmait ma douleur. Je m'imagine que l'état de mon âme avait quelque ressemblance avec celui des malheureux condamnés à la mort, lorsque, ne se sentant pas la force d'envisager cette idée, ils essaient d'étouffer en eux toute faculté de réflexion. Un air glacé dont je ne m'étais point garanti me causait de temps en temps des sensations assez pénibles, et cette souffrance me faisait un peu de bien. Je pressais quelquefois mon mouchoir sur ma bouche jusqu'au point de m'ôter la respiration pendant un moment afin de détourner par un autre genre de douleur la pensée que je redoutais comme un fantôme persécuteur. Je ne sais ce qui me serait arrivé lorsque, après de vains efforts pour échapper à moi-même, j'aurais considéré dans son entier le sort que je m'imposais. Mais j'étais parvenu, je crois, à cet excès de malheur qui fait descendre sur nous le secours de la clémence divine. Un événement que je pourrais appeler surnaturel, du moins par l'impression que j'en ai reçue, vint tout à coup changer mon état et me délivrer des tourments du désespoir. J'entendis mes postillons qui criaient « Pourquoi voulez-vous nous arrêter? Qui êtes-vous ? » Rangez-vous à l'instant, rangez-vous. » Je crus d'abord que des voleurs voulaient profiter de la nuit pour nous attaquer, et moi, que vous connaissez craintive, j'éprouvai une émotion presque douce. L'idée me vint que Dieu avait pitié de moi et m'envoyait la mort. J'avançai précipitamment ma tête à la portière, avide du péril quel qu'il fût, qui devait m'arracher aux impressions que j'éprouvais. Je ne puis rien voir, mais j'entendis une voix qui, depuis la première fois qu'elle m'a frappé, n'est jamais sortie de mon cœur, prononcer ces mots. « Faites avancer vos chevaux si vous voulez. Écrasez-moi, mais je ne reculerai pas. » « Arrêtez, m'écriai-je, arrêtez !» Les postillons ne distinguaient point mes paroles et je crus qu'ils se préparaient à partir en renversant celui qui s'était placé devant eux. Je fis des efforts pour ouvrir la portière. Le tremblement de ma main m'empêchait d'y réussir. Ce tremblement augmentait à chaque seconde qu'il me faisait perdre. Je sentais que, si je ne parvenais pas à descendre, les postillons ne me comprenant pas, attribueraient mes cris à l'effroi et, prenant Léonce pour un assassin, pourrait l'écraser à l'instant sous les pieds des chevaux et les roues de ma voiture. Non, jamais un supplice de cette nature ne saurait se peindre. Enfin, je m'élançai hors de cette fatale portière. Léonce, qui m'avait entendu, s'était jeté en bas de son cheval, et courant vers moi, il me reçut dans ses bras. Divinité des justes, que ferez-vous de plus pour la vertu? Que réservez-vous pour elle dans les cieux quand, sur la terre, vous nous avez donné l'amour? Je le retrouvai le jour même où je m'étais condamnée à le quitter pour toujours. Mon cœur reposait sur le sien. Au moment où j'avais cru sentir la voiture qui me traînait se soulever en passant sur son corps. Non, je n'aurais pas été un être sensible et vrai si je n'avais pas été résolu dans cet instant à donner ma vie à celui dont la présence venait de me faire goûter de telles délices. Ah, Louise, qui pourrait se replonger dans le désespoir quand un coup du sort l'en a retiré? Qui pourrait se rejeter volontairement dans l'abîme, reprendre toutes les sensations douloureuses, suspendues, effacées par la confiance que le bonheur inspire si rapidement? Non, j'ose l'affirmer, le cœur humain n'a pas cette force. Léonce me porta pendant quelques pas. Il me croyait évanoui, je ne l'étais point. J'avais conservé le sentiment de l'existence pour jouir à cet instant, peut-être marqué par le ciel, comme le dernier et le plus haut degré de la félicité qu'il me destine. Le premier mot que je dis à Léonce fut la promesse de renoncer à mon projet de départ. Ce départ m'était devenu désormais impossible, et je ne voulais pas qu'il pût en douter un instant après que ma décision était prise. Ah, Louise, quelle reconnaissance il m'exprima! Quel sentiment délicieux le bonheur de ce qu'on aime ne fait-il pas éprouver? Je ne sais quelle terreur, créée par l'imagination, avait effrayé, troublé mon esprit depuis 15 jours. Pourquoi donc, pourquoi voulais-je me séparer de Léonce? N'existe-t-il pas des sœurs qui passent leur vie avec leurs frères? Des hommes dont l'amitié honore et console les femmes les plus respectables? Pourquoi m'estimais-je si peu que de ne pas me croire capable d'épurer tous les sentiments de mon cœur et de goûter à la fois la tendresse et la vertu? Dès que Léonce me vit résolue à ne pas me séparer de lui, il s'établit entre nous la plus douce intelligence. Il donna avec une grâce charmante des ordres tout autour de moi, plaça ma femme de chambre dans le cabriolet d'Antoine qui était venu me rejoindre, et se mêla enfin de tous les détails avec la vivacité la plus aimable, comme s'il eût cru prendre ainsi possession de ma vie. Après m'avoir fait remonter dans ma voiture, il me montra, par les soins les plus tendres, son inquiétude sur l'état de tremblement où j'étais. Il m'entoura de son manteau, ouvrit et referma les glaces plusieurs fois pour essayer ce qui pourrait me faire du bien. Je voyais en lui une activité de bonheur, une sorte d'impossibilité de contenir sa joie qui me jetait dans une rêverie enchanteresse. Je me taisais parce qu'il parlait. J'étais calme, parce que l'expression de ses sentiments était vive. Oh, Louise, personne, personne au monde, se faisant l'idée de cette félicité, ne renoncerait à l'éprouver. Il fut convenu entre Léonce et moi que je dirais, à mon retour de Paris, que la fièvre m'avait saisi en route et m'avait obligé de revenir. J'écoutais ses projets pour nous voir, chaque jour, sans jamais causer la moindre peine à Mathilde. Ils étaient tels que je pouvais les désirer. Il revint souvent aussi à m'entretenir des ménagements qu'il aurait pour ma réputation. « Léonce, lui répondis-je, ne faites désormais rien pour moi qui ne soit nécessaire à vous. Je ne suis plus à présent qu'un être qui vit pour celui qu'elle aime, et n'existe que dans l'intérêt et la gloire de l'objet qu'elle a choisi. Tant que vous m'aimerez, vous aurez assez fait pour mon bonheur. Mon amour-propre, mes penchants, mes désirs sont tous renfermés dans ma tendresse. Ne tourmentez ni ma conscience, ni mon amour, et décidez de ma vie sous tous les autres rapports. Je me mets avec fierté comme avec joie dans la dépendance absolue de votre volonté. » Louise, avec quelle passion, avec quel transport Léonce me remercia. Votre heureuse Delphine entendit pendant 3 heures le langage le plus éloquent de l'amour le plus tendre. Léonce n'eut pas un instant, j'en suis sûre, l'idée de se permettre une expression, un regard qui put me déplaire. que le cœur est bon, qu'il est pur, qu'il est enthousiaste alors qu'il est heureux. Je trouvais, en arrivant chez moi, la dernière lettre que Léonce m'avait écrite et que je n'avais point reçue. Il me sembla qu'elle eût suffi pour m'entraîner, mais qu'il était doux de la lire ensemble. Les expressions de la douleur de Léonce me faisaient jouir encore plus de son bonheur actuel, et je me plaisais à lui faire répéter les prières qu'il m'avait adressées pour m'en laisser toucher une seconde fois. Mais enfin, je m'aperçus qu'il était 3 heures du matin. Au premier mot que je dis à Léonce, il obéit et me quitta pour retourner chez lui. J'avais perdu le repos depuis plusieurs mois. J'ai dormi profondément le reste de cette nuit. Quand je me suis réveillée, un beau soleil d'hiver éclairait ma chambre. Il avait ses rayons de fête et condescendait à mon bonheur. Je priais Dieu longtemps. Je n'avais rien dans l'âme que je craignisse de lui confier. Après avoir prié, je vous ai écrit. Ma sœur, je l'espère, vous ne me condamnerez pas. Nous avons toujours eu tant de rapports dans notre manière de penser et de sentir. Comment se pourrait-il que je fusse contente de moi et que vous trouvassiez ma conduite condamnable? Cependant, Louise, hâtez-vous de me répondre. Adieu. Lettre 9. Léonce à Delphine. Mon ami, quoi qu'il puisse nous arriver, remercions le ciel de nous avoir donné la vie. Arrête ta pensée sur ce jour qui vient de s'écouler. Il a fait une trace lumineuse dans le cours de nos années, et nous tournerons nos regards vers lui, quelque avenir que le sort nous destine. Dès mon enfance, un sentiment assez vif, assez habituel, m'a persuadé que je périrais d'une mort violente. Ce matin, cette idée m'est revenue à travers les délices de mes sentiments. Mais elle avait pris un caractère nouveau. Je n'étais plus effrayée du présage. Je ne désirais plus de le détourner. Je ne voyais plus la vie que dans l'amour, et je me plaisais à penser que si je périssais foudroyée dans la jeunesse par quelqu'un des événements qui menacent un caractère tel que le mien, je périrais dans l'ardeur de ma passion pour toi, et longtemps avant que l'âge refroidît mon cœur. Dis-moi, Delphine, pourquoi la pensée de la mort se mêle avec une sorte de charme au transport de l'amour? Ces transports vous font-ils toucher aux limites de l'existence? Est-ce qu'on éprouve en soi-même des émotions plus fortes que les organes de la nature humaine? Ces émotions qui font désirer à l'âme de briser tous ses liens pour s'unir, pour se confondre plus intimement encore avec l'objet qu'elle aime. Ah, Delphine, que je suis heureux, que je suis attendri. Mes yeux sans cesse remplis de larmes, ma voix émue, mes pas lents et rêveurs pourraient me donner l'apparence du plus faible des êtres. Mon caractère, cependant, est loin d'être amolli. Mais c'est un état extraordinaire que cette inépuisable source d'impressions sensibles qui se répand dans tout mon être. L'air déchirait hier ma poitrine oppressée. Ce matin, il me semble que je respire l'amour et le bonheur. Ah, que j'aime la vie! Chaque mouvement, chaque pensée qui me rappelle l'existence est un plaisir que je voudrais prolonger. Je retiens le temps comme un bienfaiteur. Delphine, nous serons une fois malheureux, ainsi le veut la destinée, mais nous n'aurons jamais le droit de nous plaindre. J'ai senti les battements de ton cœur sur le mien. Tes bras m'ont serré de toute la puissance de ton âme. ces peines, ces inquiétudes, ces doutes qui pèsent toujours au-dedans de nous-mêmes et troublent en secret nos meilleurs sentiments, ces infirmités de l'être moral, enfin, avaient disparu tout à coup en moi. J'étais libre, généreux, fier, éloquent. S'il eût fallu, dans ce moment, étonner les hommes par le plus intrépide courage, les entraîner par des expressions enflammées, j'en étais capable, j'en étais digne, et nul génie mortel n'aurait pu s'égaler à ton heureux amant. C'est avec cet enthousiasme d'amour que toi seul au monde peux inspirer que je saurais tromper l'ivresse où me jette ta beauté. Si quelquefois cet effort m'est pénible, rappelle-moi que tu tiens de mon aveu même qu'hier, hier, rien ne manquait à mon bonheur. Delphine, je te verrai ce soir, je le puis sans le moindre inconvénient. Tout s'arrange, tout est facile. Les plus petites circonstances secondent mes désirs. Je suis un être favorisé du ciel à cause de toi. Tu m'instruiras dans ta religion. Je ne m'en étais pas occupé jusqu'à ce jour. Mais j'ai tant de bonheur qu'il me faut où porter ma reconnaissance. Ce n'est pas assez du culte que je te rends. Il faut me dire à qui je dois ta vie, qui te l'a donnée, qui te la conserve. Impose-moi quelques sacrifices, quelques peines, mais il n'y en a plus au monde. Comment faire pour découvrir quelques devoirs qui me coûtent, quelques actions qui puissent m'être comptées, quand je te verrai tous les jours? Ô Delphine, calme-moi, s'il est possible, sur l'excès de mon bonheur, sur sa durée. Dis-moi que le ciel t'a permis de me donner un sort qui n'était pas fait pour les hommes. Je puis tout espérer, je puis tout croire. Quel miracle m'étonnerait quand un moment a changé la nature entière à mes yeux. Oui, je possède cette félicité. La mort seule la terminera. Il n'y en aura plus de ces terribles jours pendant lesquels je ne te voyais pas. Mon ami, la force de les concevoir et de les supporter n'existe plus en moi. J'ai perdu en un instant toute puissance sur mon âme. Le bonheur est devenu mon habitude, mon droit. Il faut me ménager avec bien plus de soin que dans le temps de mon désespoir. Je suis heureux, mais tout mon être est ébranlé. Les palpitations de mon cœur sont rapides. Je sens, dans mon sein, une vie tremblante que la moindre peine anéantirait à l'instant. Ô Delphine, le bonheur parfait étonne la nature humaine. Ma tête se trouble et je suis prêt à devenir misérablement superstitieux depuis que je possède tous les biens du cœur. Adieu, Delphine, adieu. Je veux en vain m'exprimer. Il y a dans les passions violentes une ardeur, une intensité dont l'âme seule a le secret. Une sympathie céleste, une étincelle d'amour, te révélera peut-être ce que j'éprouve. Lettre 10. Mademoiselle d'Albémare à Delphine. Montpellier, ce 20 décembre. Je le crois, j'en suis sûre, ma chère Delphine. Puisque vous êtes heureuse, vous n'avez pas dans le cœur un seul désir, une seule pensée que la vertu la plus parfaite ne puisse approuver. Mais, hélas, vous ne vous doutez pas de tous les périls de votre situation. Faut-il que je sois forcée par les devoirs de l'amitié à ne pas partager avec vous le premier sentiment de joie que vous m'ayez confié depuis 6 mois? Je ne vous demande point ce qu'il n'est plus temps d'obtenir. En lisant vos expressions passionnées, je me suis convaincue que vous n'êtes plus capable du grand sacrifice pour lequel vous avez courageusement lutté. Mais du moins, réfléchissez sur les chagrins dont vous êtes menacée. afin qu'une crainte salutaire vous serve de guide encore s'il est possible. Vous croyez que Léonce n'exigera jamais de vous de renoncer aux principes de vertu sans lesquels une âme comme la vôtre ne pourrait trouver aucun bonheur. Je crois que dans ce moment, son cœur est satisfait par un bien inespéré. Mais si vous ne pouvez supporter son malheur, pensez-vous qu'il n'essaiera pas de ce moyen puissant pour tourmenter votre vie? Vous triomphez, je le crois. Mais au prix de quelle douleur l'avez-vous prévu? Quand vous parviendriez à guider les sentiments de Léonce dans ses rapports avec vous, pouvez-vous oublier son caractère? Il ne s'en souvient plus lui-même à présent. Il ne sent que son amour. Mais ne savez-vous pas que les défauts qui tiennent à notre nature ou aux habitudes de notre vie renaissent toujours dès qu'il existe une circonstance qui les blesse? Vous abandonnez, dites-vous, le soin de votre réputation. Il vous suffit de veiller à la rectitude de votre conduite. Mais s'il arrive ce qui ne peut manquer d'arriver, si l'on soupçonne et si l'on blâme votre liaison avec Léonce, il souffrira lui-même beaucoup du tort qu'elle vous fera, et vous retrouverez peut-être avec amertume son irritabilité sur tout ce qui tient à l'opinion. Enfin, pouvez-vous vous flatter que Mathilde, malgré tous vos ménagements pour elle, ne découvre pas une fois les sentiments que vous inspirez à Léonce? Et croyez-vous qu'elle fut heureuse en apprenant qu'elle vous doit jusqu'aux soins même de son époux, et que sa conduite envers elle dépend entièrement de votre volonté? Je vous le répète, je ne vous donne point les conseils rigoureux qui seraient maintenant inutiles. Mais songez que c'est dans le bonheur qu'il est aisé de fortifier sa raison. Je n'exige rien des malheureux. Ils ont assez à faire de vivre. Il n'en est pas de même de vous, Delphine. Vous jouissez maintenant d'une situation qui vous enchante. C'est ce moment qu'il faut saisir pour vous accoutumer, par la réflexion, à supporter un avenir peut-être, hélas, trop vraisemblable. Il m'en coûte de vous le dire, mais je n'ai pas vu un seul exemple de bonheur et de vertu dans le genre de liaison que vous projetez. L'exemple de la vertu vous le donnerez, mais non celui du bonheur. Ce qu'on prévoit et ce qu'on ne prévoit pas brise des nœuds trop chers et trop peu garantis. La société étant tout entière ordonnée d'après des principes contraires à ses relations de simple choix, elle pèse sur elle de toute sa force et finit toujours par les rompre. Alors, le reste des années est dévoré d'avance. On ne peut plus reprendre à ses intérêts, à ses goûts simples qui font passer doucement les jours que la Providence nous destine. L'on a connu, l'on a éprouvé cette existence animée que donnent les sentiments passionnés, et l'on n'est plus accessible à aucune des jouissances communes de la vie. La puissance de la raison sert à supporter le malheur. Mais la raison ne peut jamais nous créer un seul plaisir. Et quand l'amour a consumé le cœur, il faudrait un miracle pour faire rejaillir de ce cœur ainsi consumé la source des plaisirs doux et tranquilles. Ô Delphine, pauvre Delphine, vous immolez tout à quelques années, à moins encore peut-être. Je vous en conjure, regardez votre séjour ici comme un asile. Ne renoncez pas à y venir. N'ajoutez pas l'imprévoyance et l'aveugle sécurité à tous les sentiments qui vous captivent. Reposez-vous un moment dans le bonheur, mais afin de reprendre des forces pour continuer la route de la vie. Hélas, vous n'avez pas fini de souffrir. Ne relâchez pas tous les liens qui vous soutenaient, tous ces liens qui sont le plus souvent encore un appui qu'une gêne. Ils ne vous seront que trop nécessaires. Mon ami, nous l'avons dit souvent ensemble, la société, la Providence même peut-être, n'a permis qu'un seul bonheur aux femmes, l'amour dans le mariage. Et quand on en est privé, il est aussi impossible de réparer cette perte que de retrouver la jeunesse, la beauté, la vie, tous les dons immédiats de la nature et dont elle dispose seule. Il en coûte, je le sens, de se prononcer que l'on ne peut plus être heureux, mais il serait plus amer encore de se faire illusion sur cette vérité. Et, dans de certaines situations, c'est un grand mal que l'espérance. Sans elle, le repos naîtrait de la nécessité. Delphine, l'amitié doit réserver ses faiblesses pour l'instant de la douleur. Au milieu des prospérités, il faut qu'elle fasse entendre une voix sévère. Je ne vous ai parlé que des peines qui menacent le sentiment auquel vous vous livrez. Je ne me suis pas permis de craindre pour vous le plus grand des malheurs, le remords. Ah, vous avez fait une cruelle expérience de la douleur, et cependant, vous ne connaissez pas encore tout ce que le cœur peut souffrir. Vous l'apprendriez si vous aviez manqué à vos devoirs. Aussi longtemps que vous le respecterez, mon ami, la faveur du ciel peut encore vous protéger. Lettre 11. Léonce à Delphine. Paris, ce 29 décembre. Vous êtes heureuse, ma Delphine. Mon cœur ne devrait plus rien désirer. Il y a 15 jours que je ne croyais pas même à la possibilité de la peine. Il me semblait qu'elle ne rentrerait jamais dans mon cœur. Cependant, je suis inquiet, presque triste. Je voudrais te le cacher, mais j'ai senti que j'offenserais cette intimité parfaite qui confond nos âmes si je laissais s'établir le moindre secret entre nous. Je vous en conjure, Delphine, n'interprétez pas mal ce que je vais vous dire. Ce ne sont point des sentiments réprimés, quoique invincibles, qui troublent déjà mon bonheur. Ce n'est pas non plus la jalousie qui s'empare de moi. Comment pourrait-elle m'atteindre? Mon cœur en est préservé par mon estime, par mon admiration pour toi. Mais je hais cette vie du monde dans laquelle vous avez reparu avec tant d'éclat. Quand je vais chez vous, j'y rencontre sans cesse des visites. Je ne suis jamais sûre d'un instant de conversation tête à tête. Plusieurs fois, les importuns pour qui vous êtes charmante sont demeurés à causer avec vous jusqu'à l'heure où la prudence ne me permettait plus de rester. Hier au soir, par exemple, hier, j'ai passé 4 heures avec vous, et pendant ces 4 heures, qui pourrait le croire, je n'ai éprouvé que des sentiments pénibles. Madame d'Artena vous avait persécuté pour souper chez elle. Vous aviez cru devoir y consentir. C'était, m'avez-vous dit, afin de prouver par l'accueil même que vous recevriez au milieu de la meilleure société de Paris, que l'impression des bruits répandus contre vous était entièrement effacée. Car vous aussi, Delphine, vous vous occupez de captiver l'opinion du monde, et vous y réussissez parfaitement. Je vous ai suivi dans ce tourbillon, et si je n'y avais pas été, je ne vous aurais pas vu du tout le jour. J'arrivais avant vous, vous entrâtes. Jamais je ne vous avais vue si belle. Cet habit noir sur lequel retombaient vos cheveux blonds, ce crêpe qui environnait votre taille et faisait ressortir la plus éclatante blancheur, toute votre parure enfin, contribuait à vous rendre éblouissante. J'entendis des murmures d'admiration de toutes parts, et je ne sais pourquoi, je ne me sentis pas fière de votre succès. Il me semblait que vous deviez votre éclat au désir de plaire généralement, et non à votre attachement pour moi seule. Cette impression fut la première que j'éprouvai en vous voyant, et le reste de la soirée ne fut que trop d'accord avec ce pénible sentiment. Jamais vous n'avez produit tant d'effets par votre présence et par votre conversation. Jamais vous n'avez montré un esprit plus séduisant et plus aimable. » Trois rangs d'hommes et de femmes faisaient cercle autour de vous pour vous voir et vous entendre. La jalousie, la rivalité étaient pour un moment suspendues. On était avec vous comme les courtisans avec la puissance. Ils cherchent à s'en approcher sans se comparer avec elle. Chacun était glorieux de bien comprendre tout le charme de vos expressions. Et pour un moment, les amours propres luttaient seulement ensemble à qui vous admirerait le plus. Moi, je me tins à quelque distance de vous, sans perdre un mot de votre entretien. J'entendis aussi les exclamations d'enthousiasme, je dirais presque d'amour, de tous ceux qui vous entouraient. Tandis que votre esprit se montrait plus libre, plus brillant que jamais, il m'était impossible de me mêler à la conversation. Vous étiez gai et j'étais sombre. Cependant, moi aussi, Delphine, moi aussi je suis heureux. Pourquoi donc étais-je si embarrassé, si triste? Expliquez-moi la raison de cette différence. Oh, si vous alliez découvrir que c'est parce que je vous aime mille fois plus que vous ne m'aimez. Certainement, la vie de Paris ne peut convenir à l'amour. Le sentiment que vous avez daigné m'accorder s'affaiblirait au milieu de tant d'impressions variées. Je le sais, votre cœur est trop sensible pour que l'amour-propre puisse le distraire des affections véritables. Mais enfin, ces succès inouïs que vous obtenez toujours, dès que vous paraissez, ne vous causent-ils pas quelque plaisir? Et ces plaisirs ne viennent pas de moi. Ce seraient eux, au contraire, qui pourraient vous dédommager de mon absence. Je suis glorieux de votre beauté, de votre esprit, de tous vos charmes. Et cependant, ils me font éprouver cette jalousie délicate qui ne se fixe sur aucun objet, mais s'attache aux moindres nuances des sentiments du cœur. Ces suffrages qui se pressent autour de vous, il me semble qu'ils nous séparent. Ces éloges que l'on vous prodigue donnent à tant d'autres l'occasion de vous nommer, de s'entretenir de vous, de prononcer des paroles flatteuses, des paroles que moi-même je vous ai dites souvent, et que je serai sans doute entraîné à vous redire encore. Oh, mon ami, puisque vous ne m'appartiendrez jamais entièrement, puisque ces charmes qui enivrent tous les regards ne seront jamais livrés à mon amour, il faut me pardonner d'être prêt à m'irriter quand on vous voit, quand on vous entend, quand on goûte presque alors les mêmes jouissances que moi. Pardon, ma Delphine, j'ai blasphémé. Tu m'aimes. À qui donc puis-je me comparer sur la terre? Mais je ne puis jouir de mon sort au milieu du monde. L'observation qui nous environne m'importune. Je ne suis bien que seul avec toi. Dans toute autre situation, je souffre. Je sens, avec une nouvelle amertume, le désespoir de n'être pas ton époux. Tu veux que je sois heureux? Eh bien, j'ose te supplier de retourner à Belle-Rive. La saison est rude encore, mais n'est-il pas vrai que tu ne compteras pour rien ce qui pourrait déplaire à d'autres femmes? Les devoirs que tu m'imposes envers Mathilde ne me permettront pas de te voir avant 7 heures du soir. Tu seras souvent seule jusqu'alors, mais tu goûteras quelque plaisir par les pensées solitaires qui grave plus avant toutes les impressions dans le cœur. Je demande à la femme de France qui voit à ses pieds le plus d'hommage et de succès de s'enfermer dans une campagne au milieu des neiges de l'hiver. Mais cette femme sait aimer. Cette femme quittait tout pour me fuir quand un scrupule insensé l'égarait. Ne quittera-t-elle pas tout plus volontiers encore pour satisfaire mon cœur avide d'amour, de solitude, d'enthousiasme, de toutes ces jouissances que le monde ravit à l'âme en la flétrissant. Je déteste ces heures que consume une vie oiseuse. Depuis 6 mois, j'ai perdu l'habitude de l'occupation. Si tu le veux, nous donnerons quelques moments à des lectures communes. J'aime cette douce manière de tromper, s'il est possible, les sentiments qui me dévorent. Les pratiques religieuses et la société des dévotes remplissent presque toutes les soirées de Madame de Mondeville. Elle ne m'a jamais demandé de venir avec elle aux assemblées qui se tiennent chez l'évêque de M. Et je crois même qu'elle serait fort embarrassée de m'y mener. Elle ne se permet jamais d'aller au spectacle. Elle fait des difficultés sur les trois quarts des femmes que nous serions appelées à voir. Il arrive donc tout simplement que je deviens chaque jour plus étranger à sa société. Elle m'aime, et cependant elle ne souffre point de cette sorte de séparation. Quand les principes rigoureux du catholicisme s'emparent d'un caractère qui n'est pas naturellement très sensible, ils régularisent tout, décident de tout, et ne laissent ni assez de loisirs, ni assez de connaissances du monde pour être susceptibles de jalousie. Je ferai donc plutôt du plaisir que de la peine à Mathilde en la laissant libre de se réunir tous les soirs avec les personnes de son opinion. Et pourvu que je ne dîne pas hors de chez elle, elle sera contente de moi. Tous les jours, donc, quand 6 heures sonneront, je monterai à cheval pour aller à Bellerive. Ma vie ne commencera qu'alors. J'arriverai à 7 heures, je reviendrai à minuit. Quoique je puisse être censé veiller plus tard dans les sociétés de Paris, je serai exact à ce moment pour ne pas inquiéter Madame de Mondeville. Delphine, vous voyez avec quel soin je vais au-devant de vos généreuses craintes. Je ne vivrai que 4 heures. Mais pendant le reste du temps, j'aurai ces 4 heures en perspective et je traînerai ma chaîne pour y arriver. Oh, mon ami, ne vous opposez point à ce projet, il m'enchante. J'avais commencé cette lettre dans le plus grand abattement. En traçant notre plan de vie, j'ai senti mon cœur se ranimer. Je t'enlève au monde, je te garde pour moi seul. Je ne te laisse pas même la disposition des moments que je passerai sans te voir. Je suis exigeant, tyrannique, mais je t'aime avec tant d'idolâtrie que je ne puis jamais avoir tort avec toi.